Victor Hugo, Les Châtiments, L'Expiation. Il neigeait, on était vaincu par sa conquête. Pour la première fois, l'aigle baissait la tête. Sombre jour, l'empereur revenait lentement, laissant derrière lui brûler Moscou fumant. Il neigeait. L'âpre hiver fondait en avalanche, après la plaine blanche, une autre plaine blanche. On ne connaissait plus les chefs ni le drapeau. Hier la grande armée, et maintenant troupeau. On ne distinguait plus les ailes ni le centre. Il neigeait. Les blessés s'abritaient dans le ventre des chevaux morts. Au seuil des bivouacs désolés, on voyait des clairons à leurs postes gelés. Restés debout, en selle et muets, blancs de givre, collant leurs bouches en pierre aux trompettes de cuivre. Boulets, mitra et obus, mêlés aux flocons blancs, pleuvaient. Les grenadiers, surpris d'être tremblants, marchaient pensifs, la glace à leurs moustaches grises. Il neigeait toujours. La froide bise sifflait. Sur le verglas, dans les lieux inconnus, on n'avait pas de pain et l'on allait pieds nus. Ce n'étaient plus des cœurs vivants, des gens de guerre. C'était un rêve errant dans la brume, un mystère, une procession d'ombres sous le ciel noir. La solitude vaste, épouvantable à voir, partout apparaissait, muette vengeresse. Le ciel faisait sans bruit avec la neige épaisse. Pour cette immense armée, un immense linceul. Et chacun, se sentant mourir, on était seul. Sortira-t-on jamais de ce funeste empire? Deux ennemis, le Tsar, le Nord est pire. On jetait les canons pour brûler les affûts. Qui se couchait mourait. Groupe morne et confus, il fuyait. Le désert dévorait le cortège. On pouvait, à des plis qui soulevaient la neige, voir que des régiments s'étaient endormis là. Ô chute d'Hannibal, lendemain d'Attila! Fuyards, blessés, mourants, caissons, brancards, civières, on s'écrasait aux ponts pour passer les rivières. On s'endormait 10 000, on se réveillait 100. Ney, que suivait naguère une armée à présent, s'évadait, disputant sa montre à trois cosaques. Toutes les nuits, qui vive, alerte, assaut, attaque! Ces fantômes prenaient leurs fusils, et sur eux ils voulaient se ruer, effrayants, ténébreux, avec des cris pareils aux voix des vautours chauves, d'horribles escadrons, tourbillons d'hommes fauves. Toute une armée ainsi dans la nuit se perdait. L'empereur était là, debout, qui regardait. Il était comme un arbre en proie à la cognée. Sur ce géant, grandeur jusqu'alors épargnée, le malheur, bûcheron sinistre, était monté. Et lui, chêne vivant par la hache insultée, tressaillant sous le spectre lugubre revanche, il regardait tomber autour de lui ses branches. Chefs, soldats, tous mouraient, chacun avait son tour. Tandis qu'environnant sa tente avec amour, voyant son ombre aller et venir sur la toile, ceux qui restaient, croyant toujours à son étoile, accusaient le destin de lèse-majesté. Lui se sentit soudain dans l'âme épouvantée. Stupéfait du désastre et ne sachant que croire, l'empereur se tourna vers Dieu. L'homme de gloire trembla. Napoléon comprit qu'il expiait quelque chose peut-être, et livide, inquiet, devant ses légions sur la neige semée. Est-ce le châtiment, dit-il, Dieu des armées? Alors il s'entendit appeler par son nom. Et quelqu'un qui parlait dans l'ombre lui dit: Non! Waterloo, 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 morne plaine, comme une onde qui bout dans une urne trop pleine, dans ton cirque de bois, de coteaux, de vallons, la pâle mort mêle les sombres bataillons. D'un côté c'est l'Europe et de l'autre la France, choc sanglant, des héros Dieu trompait l'espérance. Tu désertais victoire et le sort était là. Ô Waterloo, je pleure, je m'arrête, hélas, car ces derniers soldats de la dernière guerre furent grands. Ils avaient vaincu toute la terre, chassé 20 rois, passé les Alpes et le Rhin, et leur âme chantait dans les clairons des Rhins. Le soir tombait, la lutte était ardente et noire. Il avait l'offensive et presque la victoire. Il tenait Wellington acculé sur un bois. Sa lunette à la main, il observait parfois le centre du combat, point obscur où tressaille la mêlée effroyable et vivante broussaille, et parfois l'horizon sombre comme la mer. Soudain joyeux, il dit « Grouchy !» C'était Blücher. L'espoir changea de camp, le combat changea d'âme, la mêlée en hurlant grandit comme une flamme. La batterie anglaise écrase nos carrés. La plaine où frissonnaient les drapeaux déchirés ne fut plus dans les cris des mourants qu'on égorge qu'un gouffre flamboyant, rouge comme une forge. Gouffre où les régiments, comme des pans de murs, tombaient, où se couchaient comme des épis mûrs les hauts tambours majors aux panaches énormes, où l'on entrevoyait les blessures difformes. Carnage affreux, moment fatal. L'homme inquiet sentit que la bataille entre ses mains pliait. Derrière un mamelon, la garde était massée. La garde, espoir suprême et suprême pensée. « Allons, faites donner la garde » cria-t-il. Et lanciers, grenadiers aux guêtres de Coutil, dragons que Rome eût pris pour des légionnaires, cuirassiers, canonniers qui traînaient des tonnerres, portant le noir colbac ou le gasque poli, tous ceux de Friedland et ceux de Rivoli, comprenant qu'ils allaient mourir dans cette fête, saluèrent leur dieu debout dans la tempête. Leur bouche d'un seul cri dit « Vive l'empereur !» Puis à pas lent, musique en tête, sans fureur, tranquille, souriant à la mitraille anglaise, la garde impériale entra dans la fournaise. Hélas, Napoléon, sur sa garde penchée, regardait. Et sitôt qu'ils avaient débouché, sous les sombres canons crachant des jets de soufre, voyaient l'un après l'autre, en cet horrible gouffre, fondre ses régiments de granit et d'acier, comme font une cire au souffle d'un brasier. Ils allaient, l'arme au bras, front haut, grave, stoïque, pas un ne recula. Dormaient, morts héroïques, le reste de l'armée hésitait sur leur corps et regardait mourir la garde. C'est alors qu'élevant tout à coup sa voix désespérée, la déroute géante à la face effarée, qui pâle, épouvantant les plus fiers bataillons, changeant subitement les drapeaux en haillons, à de certains moments, spectre fait de fumée, se lève grandissante au milieu des armées. La déroute apparut au soldat qui s'émeut, et se tordant les bras, cria « Sauve qui peut, sauve qui peut !» Affront horreur, toutes les bouches criaient, à travers champs, fous, éperdus, farouches, comme si quelque souffle avait passé sur eux, parmi les lourds caissons et les fourgons poudreux, roulant dans les fossés, se cachant dans les seigles, jetant shakos, manteaux, fusils, jetant les aigles sous les sabres prussiens. Ces vétérans, au deuil, tremblaient, hurlaient, pleuraient, couraient. En un clin d'œil, comme s'envole au vent une paille enflammée, s'évanouit ce bruit qui fut la grande armée. Et cette plaine, hélas, où l'on rêve aujourd'hui, vit fuir ce devant qui l'univers avait fui. 40 ans sont passés, et ce coin de la terre, Waterloo, ce plateau funèbre et solitaire, ce champ sinistre où Dieu mêla tant de néant, tremble encore d'avoir vu la fuite des géants. Napoléon les vit s'écouler comme un fleuve, hommes, chevaux, tambours, drapeaux, et dans l'épreuve, sentant confusément revenir son remords, levant les mains au ciel, il dit « Mes soldats morts, moi vaincu, mon empire est brisé comme verre. Est-ce le châtiment, cette fois, Dieu sévère ?» Alors, parmi les cris, les rumeurs, le canon, il entendit la voix qui lui répondait « Non !»